as teachers, it seems to me, what we want to do is encounter and
en tant qu'enseignant, ce que nous devons prendre en compte, ce ne sont pas seulement les circonstances immédiates et superficielles, mais nous devons remettre en question les idées qui sont profondément ancrées dans notre culture.
And that we need to challenge. But I can't think of anything more important we can do in education than
Mais il n'y a selon moi rien de plus important que nous ne puissions faire dans l'éducation que d'amener les étudiants à défier les prémices fondamentales qui nous maintiennent dans un certain cadre.
Keep us inside a certain box and we want people to think outside of that because if they don't think
Nous voulons que les gens pensent en dehors du cadre parce que s'ils ne le font pas, les choses ne changeront jamais. S'ils ne pensent pas en dehors du cadre, s'ils ne contestent pas les prémices, alors nous continuerons comme nous l'avons fait, et ensuite nous aurons le genre de monde que nous avons eu jusqu'ici, qui n'est pas terrible, non ?
Enseigner, c'est remettre en cause les idées profondément ancrées dans notre culture. C'est ainsi que le grand historien Howard Zinn définissait en 2008 son métier, qui est aussi celui de notre invité. Il remettait en cause, comme dans tout son travail, la sacro-sainte neutralité axiologique qui semble ces derniers temps dessiner une ligne de partage, on oserait presque dire une ligne de front, dans les sciences sociales. Ludivine Bantini, bonjour.
Bonjour.
Vous participez activement à cette bataille intellectuelle et politique dans le camp de Howard Zinn, on va le dire d'emblée. Vous êtes historienne, maîtresse de conférences à l'université Rouen-Normandie et chercheuse associée au centre d'histoire de Sciences Po, Sciences Po Paris. Vos travaux portent sur la jeunesse et les générations, l'engagement politique, la conscience historique, la guerre d'Algérie et en fin mai 68, vous aviez d'ailleurs publié à l'occasion du cinquantenaire 1968, De Grand Soir en Petit Matin, c'était aux éditions du Seuil, il en avait été largement question sur cette antenne, comme évidemment de l'événement. Vous venez de publier deux livres assez différents, mais qui se répondent, L'œuvre du temps aux éditions de la Sorbonne, dans la collection Itinéraire dirigée par Patrick Boucheron, une collection où les historiens sont invités à revenir sur leur parcours de manière assez intime et personnelle, et vous êtes plié à cet exercice, et Révolution aux éditions Anna Moza, dans une toute nouvelle collection, Le mot est faible, dont il faudra dire un mot du projet dans quelques instants, mais commençons, si vous voulez bien, par regarder ces deux livres un peu dans leur ensemble, et parce que ce qui est en jeu, il me semble, c'est la fonction de l'historien, la possibilité pour elle ou pour lui de son engagement dans l'espace public. Pourquoi fallait-il publier maintenant ces deux livres qui assument cette part d'émotion, de sensibilité, d'engagement, qui est celle que vous donnez à votre métier d'historienne ?
Oui, mais merci beaucoup. Je pense qu'il y a une exigence du présent. Le présent nous requiert. Alors, c'est pas nouveau, bien sûr, mais il y a une sorte d'intensité particulière de la situation, à la fois une situation désespérante et écrasante à certains égards, et à d'autres qui donnent à penser que des alternatives sont possibles. Voilà, et donc c'est la raison pour laquelle je m'inscris un peu dans le sillage de Howard Zinn. Alors évidemment, c'est très émouvant pour moi d'ouvrir cette émission avec la voix de Howard Zinn, parce que c'est vrai qu'il a été un de celles et ceux qui ont posé à nouveau frais la question de la neutralité des sciences sociales et de l'histoire en particulier, neutralité en laquelle il ne croyait pas beaucoup, et il confessait un certain soulagement quand il avait vraiment mesuré que cette neutralité était somme toute impossible, ce qui ne l'empêche pas et ce qui ne l'empêchait pas et ce qui, je crois, ne nous prive pas de bien faire notre métier d'historienne et d'historien avec honnêteté, avec intégrité, avec un savoir-faire, mais avec la nécessité aussi de s'engager dans le monde tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas. C'est ce qu'il disait dans cet extrait, et c'est vrai que c'est très touchant parce qu'il avait aussi ce souhait de décaler la perspective, de décaler le regard par rapport à ce qu'on apprend, en fait, sempiternellement, une vision en général de l'histoire par le haut. Et donc là, c'était plutôt évoquer non pas ce qu'il aurait appelé les dominés, mais celles et ceux qui sont souvent des anonymes de l'histoire, mais qui en sont les protagonistes. Et puis aussi leur laisser la place à leurs espérances, à la manière dont ils avaient imaginé d'autres futurs.
Oui, Howard Zinn qui avait signé une histoire populaire des États-Unis. On a vu dernièrement sortir, par exemple, une histoire populaire de la France également. Il y a aussi Michel Rieu-Sarcey qui a travaillé dans cette veine, Ludivine Bantini. Quelle est la fonction et la finalité du métier d'historienne ? C'est pas une question nouvelle, hein. Vous interrogez le rapport à l'archive, aux faits, aux vrais. Et vous citez cette phrase d'Antoine Pro, qui est un historien. Il n'est pas d'histoire qui ne porte de jugement. Choisir un énoncé, c'est déjà choisir son camp.
Oui, je pense qu'il y a nécessairement de l'engagement et il y a quand même une forme d'honnêteté, me semble-t-il, à le reconnaître. Je pense qu'il vaut mieux parler
mais d'engagement
de son point
contre
de vue.
Les faits, c'est-à-dire.
Ah non, pas du tout contre les faits. Non, non, c'est-à-dire que les faits, bien sûr, existent en soi. Il faut les décortiquer, les analyser, les mettre à distance aussi. Il faut les recomposer dans une certaine mesure hein, parce qu'ils s'imposent toujours à nous par le matériau archivistique sous la forme de fragments. Donc, c'est pas du tout l'idée d'être contre les faits, mais par rapport à une certaine ambition qui a traversé la discipline historique, notamment à partir de la fin du 19e siècle, le souhait de voir des historiens complètement en retrait par rapport à cette matière, comme si le matériau archivistique pouvait parler de lui-même, tout ça est quand même très largement discuté, voire contesté, parce que le choix même d'un sujet, le choix même d'une méthode et d'une approche, le choix de retenir, par exemple, comme je le disais à propos d'Howard Zinn, les anonymes de l'histoire, mais qui la font, hein, qui la forgent, eh bien, c'est déjà un engagement.
Pour une historicisation du travail d'historien, disait Pierre Bourdieu, que vous reprenez dans ce livre, Ludivine Bantini, l'œuvre du temps, il est nécessaire, on va faire une autre citation, on cite beaucoup, parce que vous citez vous aussi dans ce livre qui est une forme d'essai d'égo-histoire, en quelque sorte, si on peut parler comme ça, en tout cas qui revient sur votre parcours personnel. Vous citez évidemment ceux qui ont pu vous inspirer. Il y a aussi cet autre historien, un grand historien français, Lucien Febvre, qui évidemment a apporté l'école des annales, et qui disait « c'est important de savoir comment ça s'est passé, mais pourquoi faire ?»
Oui, bien sûr, parce que l'historienne et l'historien parlent toujours dans leur présent, dans notre présent. Et donc, moi, je comprends absolument celles et ceux qui, en histoire, la font de manière très désintéressée, passionnée et désintéressée, c'est-à-dire sans forcément d'ancrage dans l'actualité et dans l'exigence brûlante du présent. Ça, je le comprends très bien. Et il n'y a aucune norme, évidemment, en la matière, dans la discipline et dans ce métier. Mais je pense aussi légitime de pouvoir s'engager dans le présent à partir de ce métier, à partir de ce que nous dit le passé, et notamment à partir de ce que nous disent les luttes du passé, les volontés d'émancipation, les formes de rébellion, les manières de ne pas accepter forcément un certain un ordre du temps, un certain ordre social et notamment politique. Donc je pense que voilà, il y a une part des historiennes et historiens dans ce travail de l'engagement au présent, pas uniquement dans les comparaisons ou les généalogies, mais dans l'idée même que parfois, comme on l'a vu encore ces derniers mois, le présent s'inspire du passé, ou le passé se fait présent, le passé se rappelle à nous, pas seulement comme référence, mais comme une exigence aussi en termes justement d'espoir, en termes de combat pour d'autres futurs. Donc en fait, l'histoire ne travaille pas uniquement sur le passé, c'est vraiment une discipline du temps, et donc elle entrecroise forcément le passé et le présent, mais aussi le futur en tant que c'est un objet aussi à penser pour les sujets d'histoire que nous étudions.
S'engager à partir de ce que dit l'histoire, de ce que dit votre métier, c'est une chose. S'engager à partir de ce que dit votre propre histoire, je parlais évidemment tout à l'heure d'un essai d'égo-histoire, c'est ce mouvement qui part, on va dire, de destin individuel, de destin personnel, pour essayer de déployer une vision renseignée par la science qui est l'histoire, la science sociale quelle histoire. Et est-ce qu'on ne franchit pas une ligne malgré tout? Vous revenez dans ce livre, Ludivine Bantini, l'œuvre du temps, publié aux éditions de la Sorbonne. Vous revenez sur votre parcours personnel. Vous racontez quand vous arrivez à Paris, venant d'une famille qui n'a pas forcément les codes, une famille du nord de la France. Vous allez voir une psychologue au sein de l'université qui vous dit c'est en quelque sorte, c'est un peu fichu pour vous parce que vous n'avez pas les codes. Vous venez, comme je viens de le dire, d'une famille du nord de la France, d'un milieu ouvrier, et donc voilà, c'est foutu quoi, en quelque sorte. Et donc vous partez de là pour une réflexion sur aussi votre parcours et sur la possibilité qui est donnée aux unes et aux autres de pouvoir, on va dire faire ce trajet transclasse en quelque sorte.
Oui, alors vous citiez Bourdieu tout à l'heure. Je pense que la réflexivité qu'il a pensée pour les sciences sociales en général et donc pour l'histoire en particulier est tout à fait essentielle. C'est-à-dire une manière de réfléchir à l'endroit d'où l'on parle, à l'endroit d'où l'on fait ce métier, parce que précisément comme il y a des choix, il faut pouvoir s'en expliquer avec une certaine franchise, donc sans verser dans l'impudeur, mais avec parfois la possibilité en effet de laisser entrouvrir quelques portes, y compris assez intimes. Et donc, bon, évidemment, dans ce livre, il ne s'agit pas de raconter raconter de manière linéaire une histoire personnelle qui n'aurait en soi évidemment aucun intérêt, mais plutôt de procéder par fragments de passé, des choses qui ressurgissent en fait dans le rapport que l'historienne peut avoir aux morts, aux spectres, par exemple aux fantômes, parce que l'histoire est aussi faite de cette hantise en fait des morts du passé. Et donc Patrick Boucheron, qui est en effet le directeur de cette collection itinéraire aux éditions de la Sorbonne, évoque dans l'un de ses ouvrages le fait que la psychanalyse est en quelque sorte l'acte manqué de l'histoire. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que même s'il y a eu des travaux en histoire sur les rapports avec la psychanalyse, il n'y a pas véritablement eu de manière de la prendre à bras le corps. Et donc, bon, je m'y suis essayée de manière très humble, très modeste et très, de manière très brève, mais c'est-à-dire, oui, la part en nous du psychisme, la part en nous de ce passé qui ne passe pas, peut être intéressante à analyser aussi dans la perspective du métier même de l'historienne, parce qu'il y a ce rapport au passé qui interfère.
Un mot quand même de l'ambiance, l'ambiance intellectuelle, j'allais dire, du moment, l'ambiance politique et intellectuelle du moment, Ludivine Bantini, puisque finalement, cette position que vous prenez, non pas contre le vrai, mais en tout cas pour dire que la science est une science comme l'histoire, c'est pas que la question de savoir du vrai, d'établir le vrai avec des démarches très très rigides, c'est une question qui traverse la sociologie. On a vu récemment le livre de Gérald Bronner et Étienne Géhin, Le danger sociologique. C'est une question qui traverse l'économie. On se souvient du négationnisme économique, qui était un livre de Pierre Cahuc et André Zilberbach. Bref, il y a tout un mouvement comme ça d'opposition entre, on va dire, deux conceptions des sciences sociales. Une conception qui irait plutôt vers les sciences dures et qui dit qu'il faut trouver des moyens de dire le vrai, et une autre conception qui dit voilà, faisons notre deuil de cette possibilité de dire le vrai pour assumer cette dimension engagée de la science sociale.
Il ne s'agit pas de renoncer, sinon à dire le vrai, du moins à dire du vrai. Il y a bien sûr une vérité historique à trouver, et je parlais de l'honnêteté quand même du travail, du nécessaire travail d'archives, du nécessaire travail de critique des sources. Enfin voilà, c'est la base même élémentaire de ce métier. Et pour autant, je trouve que le débat auquel vous faites référence, il est passionnant. Il est très politique, à mon sens, dans la signification même du mot politique, dans sa force. C'est-à-dire qu'il organise aussi ce qui fait cité, ce qui fait du commun, avec ses clivages et avec cette conflictualité. Moi, je ne veux pas être trop tranchée ni trop péremptoire à l'égard de celles et ceux qui pensent vraiment qu'il pourrait y avoir une exactitude absolue, une scientificité absolue du côté de l'histoire ou de la sociologie ou des sciences sociales en général. Mais encore une fois, je ne pense pas véritablement cette neutralité possible. Et donc, à partir de cette conviction, je pense qu'il faut essayer d'aller au plus près justement du terrain et du travail pour faire surgir du vrai, mais sans pour autant s'illusionner sur l'objectivation possible de ce métier.
Mais alors, ça pose encore une fois la question de à quoi sert l'histoire à ce moment-là, parce que s'il n'y a pas d'objectivation possible, s'il n'y a pas un récit qui peut être donné pour essayer de nous renseigner un petit peu sur ce qu'on est, ce vers quoi on va en quelque sorte, puisque c'est une fonction qu'on peut donner à l'histoire, Ludivine Bantini, il y a comme je disais tout à l'heure, une frontière qui est franchie, c'est-à-dire que on arrête de penser que ça peut être un enseignement.
Ah non, mais je suis pas du tout d'accord avec la conclusion que vous tirez du fait qu'il n'y a pas de neutralité possible. Bon, je vais prendre un exemple que je connais un peu pour y avoir travaillé ces dernières années. C'est le cas de 1968. On est un certain nombre à y retravailler avec d'autres sources, avec une nouvelle mesure, une nouvelle aune en quelque sorte, pour redonner la parole à celles et ceux à qui finalement on l'avait jusqu'alors confisqué. C'est-à-dire que, par exemple, on a beaucoup réfléchi à 68 uniquement comme le fait de quelques leaders étudiants qui aujourd'hui ont pignon sur rue, sur revue, sur médias. Et donc, voilà, le travail a consisté, à partir d'archives extrêmement foisonnantes et abondantes, à revenir sur une grève générale, sur des occupations d'usines, de lieux de travail, etc. Donc là, il y a bel et bien un récit. Il y a bel et bien un récit fondé en raison.
Et une technicité.
Oui, une technicité et une écriture, hein, les deux sont mêlés bien sûr, et dans l'écriture on met de soi aussi, c'est pour ça que j'essaie d'y réfléchir un peu dans l'œuvre du temps, parce que bien sûr il faut essayer de trouver une écriture qui soit ajustée et adéquate à l'événement ou à l'histoire qu'on décrit. Donc il y a bel et bien un récit, mais ce récit n'est pas falsifié pour autant, et c'est ce que voilà, et c'est pour autant très intéressant également que l'on fasse la part des alliances possibles entre l'histoire et la littérature. même si voilà, la littérature a toujours ce domaine réservé de pouvoir rêver, de pouvoir s'éloigner du réel, alors que ce n'est pas le cas du travail de l'historienne ou de l'historien.
Dans ce livre, L'œuvre du temps, Ludivine Bantini, évidemment, réfléchissait à cette matière première qu'est le temps, la matière première de l'historienne, et vous y réfléchissez en critiquant en quelque sorte une vision trop linéaire du temps, et vous aimez à penser le temps plutôt comme des replis qui se superposent, et ça vous permet d'échapper à une forme de tyrannie du temps présent, comme on peut l'appeler, et vous faites référence à un chercheur qui est Jérôme Bachet, qui a bien réfléchi à cette question.
La caractéristique principale de ce qu'on peut appeler cette tyrannie du présentisme, c'est l'effondrement du futur, de la possibilité d'imaginer autre chose. Alors, le problème, c'est que effectivement, la forme qu'a pris ce désir d'un futur, notamment sous l'espèce d'une révolution et d'un appétit de quelque chose qu'on peut appeler le communisme, s'est effondré dans la forme qu'il avait prise historiquement dans les régimes dits soviétiques. Et on en a déduit que toute possibilité de futur avait par conséquent disparu à partir de la chute du mur de Berlin. Mais il faut quand même essayer de dissocier les deux, c'est-à-dire que la forme qu'a pris ce désir révolutionnaire a effectivement conduit à une perversion absolue, mais est-ce que pour autant on peut décréter la fin de tout autre monde possible? Ça, c'est l'idéologie dominante depuis les années 80, c'est le « il n'y a pas d'alternative » de Margaret Thatcher, ou la condamnation à vivre dans le monde dans lequel nous sommes, c'est-à-dire l'enfermement dans ce qui est, l'impossibilité de penser autre chose. Donc tout le défi, c'est justement de faire réémerger une pensée des possibles qui soit capable de se dissocier de la forme dominante de l'idée révolutionnaire telle qu'elle a existé au cours du siècle passé.
Et faire advenir les possibles, c'est sortir de ce temps linéaire qui n'a pas toujours été la représentation qu'on a pu avoir de l'histoire. Ludivine Bantini, vous le rappelez dans votre ouvrage, je vais vous parler d'une forme de chronolâtrie aujourd'hui en Occident. Qu'est-ce que vous entendez par là?
C'est cette obsession, en effet, de la ligne droite, comme s'il y avait une fatalité de l'histoire. Donc là, il s'agit en quelque sorte de défataliser le temps, de montrer, en effet, dans le sillage de ce que dit à l'instant Jérôme Bachet, et ça me touche aussi beaucoup que vous ayez fait ce choix, je peux m'en expliquer en quelques mots, mais je vais y revenir, mais défataliser le temps, ça revient à dire que, voilà, c'est vrai que par rapport au mot implacable, comme le mot présentisme, qui a en quelque sorte échappé à celui qui l'a forgé, c'est-à-dire l'historien François Hartog, qui désignait par là, le fait que notre présent serait absolument replié sur lui-même, sans plus de considération du passé, ni d'espoir dans le futur. Et donc, ce mot implacable, comme les formules très tranchantes, telles celles de François Furet, qui disait en effet « désormais, nous sommes condamnés à vivre dans le monde tel qu'il est », ben, ce sont des formules qui nous enferment, justement, dans une résignation. Et ce qui est frappant, au contraire, dans le présent que nous vivons, et dans sa complexité, et dans ses tiraillements et ses tensions, c'est qu'il y a aussi beaucoup de brèches pour d'autres futurs. Et ce sont ces brèches-là qu'il s'agit de penser, aussi à l'aune du passé, à l'aune des espoirs qui se sont forgés dans le passé. Et à cet égard, c'est vrai que j'ai infiniment de respect et d'admiration pour le travail de Jérôme Bachet et pour l'articulation qu'il fait entre son travail d'historien médiéviste et la manière dont il vit désormais quasiment à plein temps, et le temps ici à toute son intensité, au Chiapas, pour rendre compte et pour vivre l'expérience zapatiste, c'est-à-dire une expérience qu'il ne s'agit pas de fétichiser, mais dont il s'agit de souligner la force, parce que c'est une expérience du commun, c'est une expérience d'un ralentissement du temps, d'une décision politique prise autrement, de manière beaucoup plus justement partagée, collective, avec une toute autre vision de la démocratie, toute autre vision du rapport à l'autre, à autrui, et aussi à ce qu'elles appellent la terre-mère. Donc c'est une temporalité avec une grande intensité dont rend compte le travail de Jérôme Bachet.
Le passé est un spectre à la manière d'un compagnon de l'action, dites-vous Ludivine Bantini. Les projets frustrés des laissés pour compte de l'histoire restent vivants dans leur échec en tant que possibilité ou exigence de justice. Je cite là un extrait de votre ouvrage « L'œuvre du temps », c'est-à-dire que penser ce temps comme un repli, comme des replis, et non pas comme une ligne droite, c'est aussi reconnaître qu'il est ceux qui ont échoué, ceux qui ont été dominés dans l'histoire, sont toujours présents. Leur combat existe toujours, ils sont toujours présents.
Oui, on le voit très bien, dès qu'un événement surgit, dans la force de son irruption, il y a souvent, justement, à l'inverse total du présentisme, un rapport au passé. Une manière de rendre le passé vivant, de renouer, de revitaliser des expériences qui ne sont pas mortes, justement. Par exemple, au sujet de la Commune de Paris, pendant à peu près 100 ans après son émergence et finalement sa défaite, on a dit « la Commune n'est pas morte ». Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de spectre, parce que, de fait, il y a, en quelque sorte, des fantômes qui viennent nous hanter, mais pas d'une manière inquiétante. Il y a une sorte de familiarité bienveillante aussi dans ce rapport au passé. On l'a vu beaucoup en 1968 où justement ce passé de la Commune ou de la Révolution a ressurgi. On l'a vu récemment avec le mouvement des Gilets jaunes. On a beaucoup évoqué la Révolution française, mais aussi la Commune, justement. Donc ce sont des expériences comme s'il s'agissait finalement de renouer, de tendre la main à ce passé pour qu'il ne soit pas commémoré. Et commémorer le passé, c'est souvent l'embaumer, c'est souvent l'enterrer, c'est le rendre mort, c'est en quelque sorte le tuer une seconde fois. Donc, dans une certaine mesure, sans que le passé nous soit un fardeau, à certains moments, il est vivant, il est présent, il est actuel par ses projets.
Le passé est un spectre. Vous citez évidemment Walter Benjamin dans ce livre, Les Divines Bantini. Vous avez même choisi pour la couverture une photo du mémorial. Alors, je ne sais pas si c'est pour le tuer une deuxième fois, mais du mémorial consacré à Walter Benjamin à Portbou. Ce livre, Les Divines Bantini, l'œuvre du temps, aux éditions La Sorbonne.
La Grande Table, Raphaël Bourgois.
Avec un autre livre aussi, Ludivine Bantini, dont on va parler aussi un petit peu, si vous le voulez bien, qui est Révolution. Révolution, publié dans l'excellente et maison d'édition Anna Mosa, qui fait un vrai travail justement aussi sur repenser l'histoire. On pense à la revue Sensibilité qui fait ce travail, voilà, de voir comment une histoire sensible peut être, ou du sensible plutôt faudrait-il dire, est possible. Et là, propose, sous la direction de Christophe Granger, qui est un historien qui avait travaillé par exemple sur la plage, qui avait travaillé sur les corps pendant l'été, il propose une collection qui s'appelle Le mot est faible et qui veut reprendre en quelque sorte le contrôle sur un certain nombre de mots dont Christophe Granger estime qu'ils ont été confisqués, une sorte de novlangue aujourd'hui pour reprendre le terme orwellien. On fait dire aux mots l'inverse de ce qu'ils veulent dire et évidemment le mot révolution, en cela il y a aussi un autre texte de Deborah Cohen sur le mot peuple et là ce texte, le vôtre, Ludivine Bantini, s'attache au mot révolution. C'est un mot qui a été confisqué aujourd'hui ou en tout cas dont on ne sait plus très bien le sens.
Oui, il a été abîmé, il a été galvaudé, il a été en quelque sorte énervé au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'on lui a retiré les nerfs, soit pour en faire un usage publicitaire. Combien de publicités sur des fers à friser, sur des rouges à lèvres ou sur des paires de baskets qui seraient révolutionnaires? Combien d'usages du tché, par exemple, pour faire vendre et pour consommer et pour inciter au marché et au profit? Mais il a été aussi repris avec des usages plus directement politiques. On l'a vu bien sûr avec l'ouvrage d'Emmanuel Macron au cours de la campagne pour l'élection présidentielle de 2017, donc qui a intitulé en effet ce livre Révolution, pour désigner un programme politique qui en fait n'était pas particulièrement révolutionnaire, je veux dire même y compris du point de vue de sa propre culture politique, c'est-à-dire que c'est quand même un programme qui est mis sur le métier depuis environ 40 ans, hein, qui est un programme néolibéral, et en même temps donc, ça indique que le mot en quelque sorte a besoin d'être utilisé pour... Le lisser en quelque sorte, j'allais dire le polisser aussi dans le sens d'une police du vocabulaire et le polir, le rendre poli pour qu'il ne soit plus subversif. Et donc l'esprit de la collection, et en effet je suis heureuse aussi que vous souligniez la vivacité de cette maison d'édition Anna Mosa avec Chloé Pathé et Christophe Granger.
Chloé Pathé qui est l'éditrice, oui.
Voilà, le mot est faible, c'est une manière de contribuer à redonner consistance historique et politique à certains de ces mots un peu abîmé en effet.
Et vous profitez de ce livre pour mener un peu une charge contre la philosophie du progrès, l'idée du progrès. On a vu récemment ce livre des conseillers d'Emmanuel Macron, le progressisme ne tombe pas du ciel, je crois que c'est ça le titre, Ludivine Bantini. Cette idée de progrès, on retrouve, s'il faut faire un lien avec l'autre livre, cette approche un peu linéaire du temps, c'est-à-dire d'un temps qui nous emmènerait automatiquement vers ce progrès.
Alors moi, je ne vais pas me poser en faux contre l'idée de progrès. Bien sûr que c'est très important qu'il y ait des progrès sociaux, qu'il y ait des acquis, que l'épanouissement de tout un chacun et de la collectivité se mène dans le bon sens. C'est vrai qu'il n'y a pas de linéarité de l'histoire et que la vision un peu mécaniste du progrès, une vision souvent très économiciste, a été longtemps soutenue au 19e et plus encore au 20e siècle, avec des chaos, avec l'idée qu'au fond, ça revenait quand même essentiellement à une accumulation liée au profit, liée à la spéculation, donc liée en fait à une logique du capital, hein, décrite de manière assez objective d'un point de vue économique. Ce qui est un peu gênant dans l'usage qui en est fait, et notamment par les auteurs que vous citez, c'est que ce mot, il est là pour cliver, en fait, pour renvoyer à tout ce qui n'est pas eux le mot de populisme, hein, puisque le progressisme a été opposé au populisme.
Et le problème,
c'est qu'on ne voit pas véritablement ce qui est progressiste dans tous les reculs sociaux qui sont proposés dans ce type de politique. On parle beaucoup de réforme, ça a été aussi un mot un mot fétiche, en quelque sorte, un mot de passe et de passe-passe. Hein. Donc il faut réformer le système des retraites, le système de santé, le système hospitalier, il faut réformer le lycée, il faut réformer l'université. Et en fait, on peut avoir l'impression à certains égards que ce sont plutôt des contre-réformes, parce qu'elles, en fait, objectivement, pour les gens, pour tout un chacun, vous et moi, et celles et ceux qui ne sont rien, mais n'ont pas grand-chose, ce sont plutôt des régressions. Donc c'est une vision extrêmement galvaudée, elle aussi, me semble-t-il, de la notion de progrès.
Alors dans ce livre sur le mot révolution, Ludivine Bantini, vous faites remarquer qu'il existe finalement, et c'est d'ailleurs quelque chose qui existait aussi dans votre autre livre, et comme s'il existait deux régimes d'historicité pour des contemporains. Certaines personnes ne sont pas contemporains à leur propre époque, nous dites-vous. Et on a le sentiment que la révolution, c'est justement ce moment où ces personnes qui se sentent peut-être en décalage par rapport à leur propre époque, ces personnes redeviennent contemporaines à leur propre époque. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses? Et évidemment, en disant ça, on pense aux gilets jaunes auxquels vous faisiez référence tout à l'heure, et on se demande, puisque ça a été quelque chose qui a été beaucoup discuté, est-ce qu'il faut parler de révolution, est-ce qu'il faut parler de révolte populaire? De quoi faut-il parler exactement?
Alors pour les gilets jaunes, comme c'est un mouvement qui est en cours, qui est dans son déploiement, c'est très difficile déjà de l'enfermer dans un mot qui serait déjà un mot carcan, qui serait déjà une manière de le qualifier, voire de le disqualifier pour beaucoup, alors même qu'il est dans son encours et qu'il faut le respecter comme tel. Je pense que c'est un soulèvement, ça fait pas de doute, c'est une révolte et l'avenir nous dira s'il s'agit d'une révolution ou pas. Mais en tout cas, dans ces moments-là, dans ces moments de... d'événements puissants, ce qui est très intéressant, c'est la prise de parole, le sentiment qu'on a légitimité justement à intervenir dans un espace public et politique qui habituellement est réservé à celles et ceux qui détiennent le pouvoir. Donc là, la chose politique change de sens, revêt une autre signification qui est plus celle du partage, qui est plus celle du commun, et donc les frontières de la légitimité se déplacent elles aussi, et donc ça crée des temporalités extrêmement vivaces. On a le sentiment d'un temps extraordinaire au sens strict, d'un temps en suspens en quelque sorte, qui ouvre la possibilité de révéler des potentialités créatrices qu'on peut porter en soi, mais qui ne trouvent pas toujours le temps de s'exprimer véritablement.
Mais il n'y a pas que ça, Ludivine Bantini. Dans cet événement se révèlent aussi des contradictions, des apories. Dans un mouvement comme celui des Gilets jaunes, le refus d'être représenté, d'avoir des porte-paroles, pose un certain nombre de problèmes, et notamment des manifestations violentes, une certaine forme de complotisme, de l'antisémitisme et du racisme qui ont émergé aussi à cette occasion-là. Est-ce que au nom de l'événement, au nom de ce que vous dites, il faut fermer les yeux là-dessus?
Non, mais il ne s'agit pas du tout de fermer les yeux, il s'agit d'avoir une lucidité sur la complexité d'un tel mouvement. Après, je dois vous dire, même si ce n'est pas du tout le cas de la formule que vous venez d'employer, mais j'ai été vraiment choquée par moments sur la manière dont on réduisait ce mouvement, par exemple, à de l'antisémitisme, alors que ces relents antisémites ont été extrêmement minoritaires. Donc, il y a cette complexité. La violence, c'est une traduction aussi d'un certain état des lieux. C'est-à-dire, dans une révolte, il y a toujours de la révélation. C'est toujours une révélation sur le monde social, sur les rapports sociaux. Et il m'a semblé que dans l'expression de cette violence, en fait, il y avait une manière de dire où est la violence. À chaque fois, où est la véritable violence? Est-ce que c'est dans des vitrines de banque brisées, par exemple? Ou est-ce que c'est dans un tag sur l'Arc de Triomphe? Ou est-ce que c'est dans le fait que tant de gens vivent dans des conditions d'une précarité éhontée, dans vraiment une forme à la fois de dignité revendiquée et d'indignité matériel qu'on voit très bien, par exemple, dans le film de François Ruffin, Je veux du soleil, qui est un film extrêmement émouvant et touchant à cet égard, mais d'une force aussi dans ce qui s'exprime du côté des Gilets jaunes, qui prennent la parole à la fois pour décrire la réalité quotidienne qui est extrêmement âpre, extrêmement rude, qu'on connaît, même si là il y a un effet d'expression, et qui disent aussi leurs espoirs, qui disent leurs aspirations, et qui sont vraiment très 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 loin de cet antisémitisme qui a pu ponctuellement s'exprimer là et qu'il faut évidemment condamner de manière absolument implacable.
Vous le dites, l'importance des personnes, l'importance de l'événement et de l'engagement, des affects dans votre métier d'historienne, Ludivine Bantini, la part agissante des émotions, je crois que c'est votre expression dans ces deux livres, Révolution et dans l'œuvre du temps, c'est très présent, c'est même central, et vous allez chercher aussi au plus intime de vous-même un certain rapport à la littérature. Vous avez parlé tout à l'heure de la façon qu'on pouvait avoir d'écrire l'histoire. C'est aussi une question qui se pose beaucoup aujourd'hui, et je rappelle que cette collection dans laquelle vous écrivez l'œuvre du temps est dirigée par Patrick Bouchon, qui a beaucoup théorisé cette question-là, c'est-à-dire comment aujourd'hui une historienne, un historien pense l'écriture peut aussi faire passer ce dont vous nous parlez depuis le début de cette émission.
Non, c'est une question importante, et en même temps, il n'y a évidemment pas de normes en la matière, il n'y a pas d'injonction possible. Donc chacun et chacune cherche l'écriture qui lui semble la plus ajustée à ce qui est décrit là. En l'occurrence, pour des événements qui cavalcadent, en quelque sorte, hein, la révolution a la même étymologie que la valse, que la volte, la volute, etc. Donc il y a une tentative joyeuse, je pense, enfin j'espère, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas, de rendre l'écriture un peu en prise, comme ça, avec ces émotions très diverses, des moments révolutionnaires. Mais il me semble que la joie de cette écriture, hein, c'est aussi la joie d'avoir la chance du partage, comme ça, de ce récit. Et j'avoue être assez inspirée par des autrices et auteurs qui me tiennent beaucoup à cœur, et donc un auteur en particulier qui est Éric Vuillard, dont le livre 14 juillet, qui raconte justement ce qui se produit le 14 juillet du côté des protagonistes de l'histoire, à qui il donne des noms et qu'il sort justement de l'anonymat de la mémoire, eh bien c'est justement une écriture extrêmement dense, qui danse justement, qui voilà, il y a une densité de la danse même de l'écriture qui s'envole parfois, qui est aussi vraiment en prise avec la matière même de l'ordinaire et de l'extraordinaire. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des effets d'inspiration, d'admiration qui se traduisent sans doute dans cette écriture.
Et qui vous fournissent aussi des expressions, une façon de définir par la littérature vos intuitions de chercheuse, Ludivine Bantini. Je pense par exemple à cette expression d'Annie Ernaux que vous citez pour parler du temps, de ses replis du temps qui revient toujours sur lui-même, qui n'est pas une ligne droite. Elle parle de sensations palimpsestes.
Oui, alors bien sûr, c'est vrai que l'œuvre d'Annie Ernaux, bon, elle me touche tout particulièrement parce que, comme vous y avez fait allusion, en fait, il y a une question de transfuge de classe aussi. Et donc, je pense que la réflexion sur le temps, elle est aussi articulée à ces temps sociaux qui ne sont pas forcément toujours les mêmes selon les milieux d'où l'on vient et les milieux donc qu'il s'agit parfois d'articuler. Et ça crée des tensions, ça crée des formes de conflictualité, de déchirement, voilà. Et le temps palimpseste d'Annie Ernaux, ben, c'est vraiment dans une écriture qui restitue la puissance de la temporalité vécue, ce qui est très fascinant dans l'œuvre tout entière d'Annie Ernaux et notamment dans ce livre en particulier qui est Les années, cette manière d'entrecroiser une trajectoire personnelle, restituée aussi dans son intimité, et puis l'histoire en quelque sorte avec un grand H, et comment les deux se rencontrent. Et c'est aussi l'objectif de ce type d'historiographie, tel que avec bien d'autres j'essaie de défendre, c'est-à-dire une histoire aussi humble, une histoire du sol au ras de l'ordinaire, au ras des gens comme vous et moi, voilà, qui n'ont pas prétention à une légitimité politique, de pouvoir. Ces gens qui font vraiment l'histoire et qui renforcent l'intensité du temps.
Merci beaucoup Ludivine Bantini. Je rappelle vos deux ouvrages, L'œuvre du temps, c'est aux éditions de la Sorbonne, et Révolution chez Anna Mossa dans cette toute nouvelle collection. Le mot est fait. Merci d'être venu à Grand Table.
Merci beaucoup.
Bread and roses. Et on se quitte, Ludivine Bantini, en hommage au 1er mai, évidemment, sur Bread and Roses, chanté ici par Jody Collins. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, Oriane Delacroix, Henri Leblanc, Maya Neshkovitch et Laura Dutèche-Pérez, avec l'aide d'Antoine Suzarelli et de Mathilde Fourcade. À la réalisation aujourd'hui, c'était Marie Placé, à la prise de son Jacques Azubert. Dans quelques instants, les pieds sur terre.
But we fight for roses too.